L'humoriste costa-armoricaine Marine Baousson produit un podcast destiné à vulgariser la culture en général. Baptisé Vulgaire, il a été élu podcast de l'année par Apple. Bonjour Marine. Allô Marine ?
Allô, vous m'entendez ?
Oui, c'est bon, ça y est, c'est parfait. Oui, est-ce que déjà le métier d'humoriste s'est compliqué pendant le confinement ?
Bah oui, c'est compliqué parce qu'on peut pas l'exercer vraiment. Donc oui, c'est vraiment toute une galère parce qu'on peut pas se projeter, on peut pas se produire, on peut pas. Il y a plein de gens chez qui ça crée des problèmes dans la créativité parce qu'en fait c'est en jouant aussi c'est en forgeant qu'on devient forgeron, j'ai envie de dire.
Ouais.
Donc c'est sûr que ça, il faut trouver des nouveaux biais et pour pouvoir exercer notre métier, notre art. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé le podcast et j'ai cette chance-là de pouvoir m'exprimer de cette manière-là, mais si j'avais pas trouvé ça, je sais pas comment j'aurais fait en fait pour survivre, peut-être pas survivre, mais pour surmonter en tout cas ces moments de vide en fait.
Ouais. Parce que en plus c'est comme ça qu'il est né ce podcast pendant le confinement.
Oui, c'est ça. En fait, c'est une idée que j'avais depuis longtemps et quand le confinement est arrivé, le mois de mars, c'était pour moi un mois très très important. Je devais faire Bobino, un truc que je préparais depuis un an. Enfin,
ouais.
Il y avait plein de choses, plein de dates, j'avais des tournages, je jouais tous les jours en fait à ce moment-là.
D'accord.
Et donc, quand d'un coup, je me suis retrouvée chez moi avec à pas savoir quoi faire en fait, je tournais en rond. Alors comme tout le monde, j'ai fait le ménage de fond en comble, mais une fois que ça s'était fait, bon bah voilà, il fallait que je m'occupe quoi. Et puis du coup, je me suis dit bah c'est maintenant. En fait, c'est maintenant pour ce podcast, c'est maintenant pour cette idée. Et c'est vrai que je pense que c'était une bonne idée parce que du coup ça voilà, on arrive bientôt au troisième confinement et
oui, c'est ça.
Ouais. C'est toujours ça.
Justement, quel thème vous abordez dans ces podcasts ? Est-ce que des thèmes sont plus compliqués que d'autres à aborder ?
Alors oui et non, c'est-à-dire qu'en fait tout ce qui est technique, parce qu'il y a plein de, en fait les sujets sont très vastes. Là aujourd'hui, par exemple, j'ai sorti un épisode sur Jean Moulin.
D'accord.
Jean Moulin, c'était pas très compliqué de trouver des informations sur lui. En revanche, j'ai voulu être très très vaste, donc j'ai écouté beaucoup de choses, j'ai regardé beaucoup de documentaires. Finalement, j'en apprends beaucoup plus que juste sur la personne. J'ai appris beaucoup plus de choses sur la guerre de manière générale. Là où c'est compliqué pour moi vraiment, c'est quand il y a des choses à comprendre scientifiques et moi je suis vraiment pas scientifique. Donc par exemple quand j'ai dû comprendre la radioactivité ou même là j'ai sorti un épisode sur les marées il y a pas longtemps, je pensais que ce serait simple d'apprendre pourquoi les marées, pourquoi il y a des marées.
Ouais, bah oui.
En fait il y a plein de phénomènes, certes un rapport avec la lune, mais aussi la force centrifuge et tout ça. Et ça c'est des choses où moi j'ai pas du tout cette logique-là scientifique. En tout cas je suis plus littéraire que scientifique. Donc ça me demande beaucoup de concentration et puis pour le réexpliquer après c'est compliqué. Mais tous les sujets me demandent autant de préparation et de temps de recherche en tout cas. Mais après c'est plus difficile quand c'est scientifique, ouais, c'est sûr.
Est-ce que vous attendiez à autant de succès parce que 6 mois est déjà récompensé?
Je m'y attendais pas, mais j'ai tout fait pour que ça arrive. C'est-à-dire que depuis que je fais ce métier, je travaille beaucoup, c'est parce que c'est beaucoup de travail, mais je fais en sorte de tout faire correctement pour que ça marche. Et donc là, pour une fois que ça fonctionne autant, c'est incroyable, c'est un succès qui est très surprenant. Et puis du coup, ça m'apporte encore plein d'autres choses de boulot. Il y a plein de perspectives avec ce podcast et je suis très très surprise. Il va y avoir un livre, il va y avoir un spectacle. Enfin voilà, il y a plein de choses qui arrivent avec ça et ça, je l'espérais très fort, mais je suis très heureuse que ça arrive.
Ouais. Et ce nom Vulgaire, pourquoi avoir choisi c'était pour vulgariser justement la culture?
Parce que je trouvais que ça claquait. C'est-à-dire que vraiment, je me dis, vulgaire, ça m'intrigue. Et surtout que le podcast n'est pas vulgaire en soi.
Mais non.
De temps en temps, j'ai un petit gros mot ou deux, mais vraiment, c'est pas vulgaire, c'est vraiment de la vulgarisation. Et je trouve que je vulgarise tellement que oui, c'est la radioactivité en vulgaire, c'est Amélie Mauresmo en vulgaire, c'est Jean Moulin en vulgaire. Tellement c'est vulgarisé, mais c'est pas du tout grossier, quoi.
On a Geneviève de Fontenay aussi, hein.
Geneviève de Fontenay, là, pour le coup, c'est elle qui est un peu vulgaire, des fois. Oui, j'ai fait plein de thèmes comme ça, mais en fait j'ai été très surprise d'apprendre la vie de Geneviève de Fontenay, par exemple. C'est très surprenant de découvrir qu'elle n'a pas été elle-même Miss France. Moi je pensais que c'était une Miss France qui avait continué, comme Sylvie Tellier en fait, et pas du tout.
Ouais. Non, elle, ouais.
Et puis je savais pas qu'elle était de gauche, même d'extrême gauche, qu'elle avait été soutenue financièrement à Arlette Laguiller. Enfin, c'est plein de choses comme ça que j'apprends sur les gens, sur l'histoire, sur la vie. Et ce qui est drôle, c'est de voir à quel point tout se lie. C'est-à-dire que si j'apprends quelque chose sur, mettons Geneviève de Fontenay, mmh. Et ben en fait, je me rends compte que finalement, ça fait écho à Jean Moulin parce que son mari avait lui-même été résistant à Geneviève de Fontenay. Donc en fait, il y a tout un tas de liens comme ça auxquels je pensais pas du tout et c'est assez drôle. Là, en ce moment, je suis en train de préparer un sujet sur l'anarchie et de me rendre compte que c'est un anarchiste qui a assassiné Sissi. Alors que j'ai fait un épisode sur Sissi, enfin voilà, il y a plein de liens en fait, et je n'avais pas du tout réalisé ça, et c'est hyper intéressant, voilà, de préparer tout ça, quoi.
Et puis le rire est important avec la situation actuelle. Il faut rire.
Je crois, ouais, qu'il y a beaucoup de, il y a, ça, en tout cas, c'est un besoin, et comme en plus on n'a plus le contact humain qu'on avait autant avant, on n'a plus les rapports, enfin. Je pense effectivement qu'il faut réussir à trouver de l'humour quelque part. Et moi, en tout cas, je crois que de faire vulgaire, c'est ma façon d'essayer de comprendre un peu le monde. Alors, je ne comprends pas plus le Covid et pourquoi on en est là. Et voilà. Mais en tout cas, déjà, c'est un point de départ. Je pars de là. Et en plus, si j'arrive à le faire avec de l'humour et si j'arrive à informer les gens aussi sur plein de choses, j'ai fait un épisode sur le paracétamol, par exemple. Et ben, voilà, peut-être que ça pourra aider aussi les gens, voilà, d'apprendre des choses avec de l'humour, quoi.
Vous avez le temps de revenir en Bretagne? Est-ce que c'est compliqué d'être à Paris?
Je suis rentrée à Paris après plus d'un mois en Bretagne chez mes parents. Du coup, j'ai profité d'être rentrée pour Noël pour rester en Bretagne. Là, j'étais à Pérouse hier.
Ouais.
Oui, c'est compliqué. Le premier confinement, c'est vrai que je m'étais dit « Ah, je pourrais aller chez mes parents », mais en fait, j'avais pas envie d'être porteuse, peut-être moi-même, de quelque chose. Donc, du coup, j'étais restée à Paris. Là, je suis revenue à Paris un peu. Ça me fait du bien aussi d'être un peu dans mon environnement d'habitude, voilà. Mais je pense que, moi, en tout cas, ça a recréé l'envie pour moi de revenir habiter en Bretagne de manière, voilà, plus régulière, parce que je pourrais pas habiter en permanence en Bretagne avec mon métier. C'est très compliqué, parce que je suis tout le temps sur la route, et c'est vrai que c'est plus simple d'être centralisé à Paris pour aller partout que d'être que de prendre le train à Lyon, quoi, je veux dire. Mais disons que mon but maintenant, c'est de revenir le plus souvent possible. Et c'est drôle parce que je suis quand même souvent en tournée, et j'ai remarqué que partout où je vais, je fais quand même la comparaison avec Pérouse et Ploumanac et tout ça. Et donc c'est, voilà, partout où je vais, en Corse par exemple, je me dis, ah là, ça ressemble quand même pas mal à la côte de Granit Rose, alors que en vrai pas tant. Mais je crois que je fais toujours le lien, en fait. Donc j'ai hâte de revenir habiter par chez nous.
Vous étiez en famille, donc, pendant les fêtes. Qu'est-ce que pense justement votre famille de votre succès et de ce podcast?
Au début, ils n'en pensaient pas grand-chose parce qu'ils ne savaient pas trop ce que c'était que les podcasts.
Oui, d'accord.
Mais une fois que je leur ai bien expliqué que c'était des sortes d'émissions de radio, mais sur Internet, ils sont très contents, ils sont très fiers, et puis ils voient aussi tout le travail que ça me demande. Enfin, je pense que ma mère, elle est très surprise parce que, du coup, cet été, je suis rentrée un peu quelques temps chez mes parents. Et pareil, je suis restée peut-être un mois. Là, je suis rentrée à Noël un mois, et en fait c'est drôle parce que ma mère, elle m'appelle de son travail, elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais je travaille. Et en fait, le fait de me voir au bureau travailler autant sur le texte et sur les recherches et tout ça, je pense que ça les surprend beaucoup parce qu'ils n'ont pas l'habitude de me voir comme ça. Donc mais je pense qu'ils sont très fiers et très heureux. Puis en plus, là, j'ai été dans le Télégramme en dernière page, c'était un peu la fierté quand même.
Et les repas de famille sont animés, parce que dès qu'il y a un sujet, vous devez trouver un petit truc là. Ça, je sais, tiens, je vais en parler dans un prochain podcast.
Oui, alors en plus, mon père est très marrant, et donc c'est drôle parce qu'il cherche des vannes. Et donc il y a des trucs. Et par exemple, quand j'ai fait mon épisode sur les marées, je lui racontais et tout, et il m'a dit, mais il y a ça. Il m'a dit, ah, mais il y a une pub. Il me parlait d'une pub qui avait été faite sur la Bretagne, où ça disait justement, s'il y a deux marées en Bretagne, c'est pour vous donner deux fois plus de spectacles. Et du coup, il m'a dit, mais je pourrais le dire dans ton podcast. Donc du coup, il l'a dit à la fin du podcast, et je trouve ça super mignon qu'il y soit. D'ailleurs, j'ai fait un podcast avec mon père sur le Tour de France, où il racontait toute son expérience. Lui-même, il faisait du vélo quand il était petit à Saint-Brieuc, et donc du coup, il a couru avec Bernard Hinault et tout. Donc il a raconté tout ça, et c'est hyper intéressant parce que finalement, ce podcast m'amène aussi à rencontrer, certes, l'histoire, la science, mais aussi ma famille d'une certaine manière, et je trouve ça super.
Vous avez créé aussi, je crois que c'est tout nouveau, Parodie Podcast.
Parodicast, oui, c'est des parodies de podcast. Alors ça, c'était vraiment un truc, j'en ai fait 12 ou 13 épisodes, je ne sais plus exactement. Mais ça, c'était, voilà, c'était un truc précis où on s'est amusé avec des amis. Je pense que ça reviendra. Mais j'ai beaucoup ri aussi. On s'est beaucoup amusé aussi à parodier les podcasts, parce que Il y a plein de genres en fait, et ouais. On peut vraiment s'amuser avec ça, quoi. Donc et d'ailleurs mon podcast a été parodié par une autre podcasteuse, donc j'ai eu de la chance, je lui ai demandé de le faire, enfin je lui ai dit est-ce que tu es d'accord de me parodier, et évidemment je n'ai eu aucun regard, je l'ai découvert la veille de la publication, donc vraiment j'ai pas du tout mis mon grain de sel en tout cas, c'était super.
Au niveau humour, vous avez une référence dans le milieu?
Moi, j'aime beaucoup Florence Foresti, ouais. Sal Robin, Anna Gatsby, qui est une humoriste américaine aussi que j'aime beaucoup. Et j'ai rencontré Laurent Chandemerle aussi, qui est un humoriste du coin, oui. On va dire. Ouais. Pareil, Marc-Antoine Lebret. On est Marc-Antoine Lebret même, je dirais. Et on est amis. Voilà, on se connaît bien. Donc c'est chouette d'avoir des références certes locales, mais aussi générales. Et j'aime beaucoup l'écriture quand elle est précise, comme celle de Muriel Robin ou Florence Foresti. Je trouve que c'est vraiment des gens qui ont des choses très intéressantes à dire. Et puis après, même dans toute ma génération, j'aime beaucoup les humoristes de ma génération, en fait. Vérino, Christine Bérou, Yacine Bellous, Kian Kojandi, qui est très fort. Moi, j'ai la chance de travailler beaucoup avec Bérangère Krief aussi. Enfin, voilà. J'aime beaucoup aussi des humoristes de ma génération parce que finalement j'ai l'impression que ça évolue tellement vite l'humour que finalement on n'est pas obligé de forcément aller dans les grandes références pour apprendre des choses, et moi je prends des claques en fait finalement à chaque fois que je vais voir des amis humoristes parce que je vois à quel point ils évoluent et à quel point leur vision de la société est importante, quoi. Ouais. Enfin, moi je grandis à chaque fois que je vais voir un spectacle d'humoriste.
Et pour vous, il y a un nouveau spectacle en préparation?
Oui. Il y a le spectacle de Vulgaire.
D'accord.
Donc ça, c'est super, qui se prépare. Ça va être avec mon frère. Je commence la tournée de rodage en avril, si tout va bien. Alors ouais. Après, on ne sait pas, avec le Covid, mais voilà. Et puis, j'ai mon autre spectacle, du stand-up, qui s'appelle Fearless, et que je vais jouer à Langueux en mai.
D'accord.
Donc voilà, j'espère aussi que ça va pouvoir se faire, parce que ça a été décalé deux fois déjà. Donc, j'aimerais bien.
Puis on espère un jour à Perros-Guirec aussi.
Ah, mais ça, ce serait trop bien. Ce serait trop.
Voilà, donc si les élus de Perros nous entendent en ce moment, hein.
Ah, mais oui, mais par exemple, l'été, parce que je suis allée l'année dernière, j'ai profité d'un concert classique avec. C'était magnifique avec. On voyait, c'était à Trustraou, on voyait la mer, le coucher du soleil, c'était sublime. Et je me disais, mais moi, j'aimerais trop jouer à cet endroit-là, quoi. C'est très magnifique.
Mais en plus, il y a une édition qui s'appelle Humour en scène à Perros-Guirec, où on a eu Nadia Rose il y a deux ans.
Nadia Rose, qui est une de mes amies d'ailleurs, et qui était venue après, du coup, qui était revenue en vacances. Elle avait pris un hôtel juste à côté de chez mes parents, et donc on avait passé une semaine toutes les deux. On s'était éclaté, mais c'est drôle, Nadia Rose avec la vie en rose. Voilà, moi, tout me fait rire en fait à chaque fois que je vois ce logo, parce que du coup, c'est vrai que voilà, c'est mon amie. Et d'ailleurs, elle fait partie de mon podcast Parodicast. On a écrit une parodie ensemble. Donc,
d'accord.
Donc voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres projets en plus des spectacles, peut-être de la radio?
De la radio, j'aimerais bien. J'ai été contactée par des trucs, donc je ne peux pas trop parler. D'accord. Voilà, c'est un peu des secrets pour l'instant, mais il y a des choses qui se préparent. En tout cas, on me contacte et ça, c'est chouette. Il ouais. y a des choses qui se voilà. Mais et puis d'autres podcasts encore. Là, je pars à Biarritz chez Bérangère Krief là pour qu'on écrive un podcast toutes les deux. Donc pour l'instant, en tout cas, je crois que c'est ma façon de m'exprimer tant que j'ai pas le droit de monter sur scène, quoi.
Donc on parle forcément d'un nouveau confinement. On espère que 2021 soit moins compliqué que 2020. En tout cas, il y aura des choses à dire pour les humoristes, je pense. Une fois qu'ils vont monter sur scène, ça va y aller.
Mais tout est drôle. Enfin là, j'ai vu sur Twitter, mais ça me fait beaucoup rire. Tout ce qui se passe là autour de ça y est, c'est l'anniversaire de la déclaration d'Agnès Buzyn qui disait qu'il n'y avait aucun risque.
Oui.
Je trouve ça super marrant en fait. Et je trouve que même à domicile, je trouve qu'il y a une création qui, il y a plein de gens qui arrivent à faire des choses très drôles, et je trouve ça super de voir qu'il y a autant de créativité encore malgré les conditions, quoi. Ouais. Donc c'est super.
Ben en tout cas, merci beaucoup Marine d'avoir été sur Millennium. Et juste après, pour ceux qui ne connaissent pas, en fin d'émission, eh bien, on s'écoutera votre podcast sur les maris.
Ah bah super, ben voilà, vous entendrez mon père. Un peu technique celui-là, vous verrez, il est un peu technique.
Merci beaucoup Marine, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.